Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce dimanche 17 juillet. Avec vous, Jean-Noël Ducasse, et au sommaire de cette émission, le journal, les sports, le personnage de la semaine. Et on reviendra sur le Bastille Day Festival de Federation Square à Melbourne qui continue ce dimanche. Et vous avez encore quelques heures si vous voulez venir en ville et assister à ce festival. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Les grands titres de ce 17 juillet, le gouvernement fédéral qualifie de ridicule la critique de l'opposition de son backflip de paiement de la prime Covid. L'Arabie Saoudite exhorte le monde à ne pas réagir de manière excessive à sa réouverture de l'espace aérien aux avions israéliens. Tennis, l'Australien Leighton Hewitt est intronisé au temple de la International Hall of Fame. Le gouvernement fédéral a défendu son retard dans le rétablissement du paiement de la prime Covid supprimée il y a quelques semaines après avoir insisté plutôt sur le fait qu'il ne pouvait pas rétablir ce financement. Jim Chalmers, le trésorier, a déclaré sur Sky News que le gouvernement n'était pas intéressé à jouer à des jeux de blâme après les accusations de l'opposition, mais plutôt à s'occuper de la nation.
There's an appetite in the community to come together around these problems and not to constantly carp and whinge about them. And I think that those comments from, whether it's Susan Lee or from others, are frankly ridiculous in the context of us trying to do the right thing by people.
Et puis le président de l'Association médicale australienne, Dr Omar Khorshid, déclare que le port du masque devrait être envisagé alors qu'une nouvelle vague de coronavirus frappe tout le pays.
And I think this government is learning some new lessons as it gets its feet under the desk and how important it is to stay in touch with the community, with the experts and others in the community that are giving them advice and not just to listen to the bean counters and bureaucrats that do see any expenditure on health as a waste. We know as doctors on the ground and as workers in a healthcare system that investment in healthcare, investment in pandemic management is a positive investment for the economy, for Australia's health.
Le chef du Parti libéral, Peter Dutton, a appelé le gouvernement à accélérer l'acquisition de sous-marins nucléaires dans le cadre du pacte de sécurité AUKUS. Le ministre de la Défense, Richard Marles, s'est demandé si l'Australie obtiendrait des sous-marins de fabrication américaine ou britannique au cours du premier trimestre de 2023. Mais Peter Dutton déclare que le processus doit être accéléré et que le temps est essentiel pour l'accord sur les sous-marins car les relations avec la Chine continuent de se détériorer. Le parti d'opposition du Victoria a promis de légiférer un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 50% d'ici 2030 s'il remporte les élections de novembre. L'objectif de la coalition correspond à celui des travaillistes du Victoria et est supérieur à l'objectif fixé par le gouvernement travailliste fédéral. Un avion cargo s'est écrasé samedi soir dans le nord de la Grèce, a rapporté l'agence de presse Athens News. Aucune information officielle sur le nombre de personnes à bord n'était disponible. Ce que l'on sait, c'est que l'avion appartenait à l'Ukraine et volait de la Serbie à la Jordanie lorsque le pilote a alerté les autorités sur un problème dans l'un des moteurs de l'avion. L'avion s'est écrasé à environ 40 km à l'ouest de l'aéroport de Kavala, dans le nord de la Grèce, avant qu'un atterrissage d'urgence puisse être effectué. Joe Biden a terminé sa visite controversée en Arabie Saoudite. Le président américain a assisté hier au sommet, réunissant 6 membres du Conseil de coopération du Golfe. Le reportage de Nicolas Feldman pour RFI.
We will not walk away.
On ne se détourne pas, les États-Unis vont rester un partenaire actif au Moyen-Orient. Devant les dirigeants arabes, Joe Biden acte le retour de son pays dans la région. Pour le président américain, pas question de laisser les autres puissances, la Chine, la Russie ou l'Inde, investir le Moyen-Orient. Les États-Unis vont reprendre leur place. Pour cela, la nouvelle vision de l'administration américaine se veut d'abord basée sur une coopération économique retrouvée, mais aussi sur une reprise du dialogue. Exemple avec l'invitation prochaine à Washington du président des Émirats Arabes Unis, pourtant en froid depuis des mois avec les Américains. Joe Biden attendait certainement en retour quelques mains tendues, mais pas d'annonce des monarchies du Golfe pour limiter la flambée des prix du pétrole. Pas non plus d'accord de l'Arabie Saoudite sur une normalisation de ses relations avec Israël. C'est au contraire pour le président américain un autre geste qui restera, ce check du poing échangé avec Mohamed Ben Salman, comme pour sceller le retour en grâce du prince héritier d'Arabie Saoudite, un pays encore considéré il y a peu comme un paria par les États-Unis.
Le sommet du G20 des ministres des Finances à Bali a pris fin sans accord sur les principales crises à travers le monde. Crise alimentaire, crise énergétique, l'inflation qui grimpe et les désaccords sur la guerre en Ukraine. Reportage Grégory Genévrier pour RFI.
Les grands argentiers du G20 se sont finalement quittés dos à dos sans même publier de communiqué final. Pourtant, les sujets étaient nombreux sur la table. Lutte contre l'inflation, réponse au risque de crise alimentaire, restructuration de la dette des pays en difficulté. Aucun accord n'a été trouvé. Les divergences autour de la guerre menée par les Russes en Ukraine ont paralysé les discussions. Le ministre indonésien s'est contenté d'annoncer des progrès dans le débat sur la mise en place d'une réforme mondiale de l'imposition. L'Indonésie, qui compte prochainement organiser une réunion avec les ministres de l'Agriculture et des Finances sur le sujet de l'insécurité alimentaire. Face à cet échec, la directrice exécutive du FMI, Kristalina Georgieva, a appelé les pays du G20 à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour faire baisser l'inflation. Elle rappelle que les perspectives économiques s'assombrissent. Un G20 qui apparaît donc bien fracturé avant la réunion de ses chefs d'État prévue en novembre prochain à Bali.
Au Sri Lanka, après la démission du président Gotabaya, un nouveau président sera élu par le Parlement d'ici quelques jours. Il aura plusieurs défis, sortir le pays de la crise économique et réconcilier les citoyens avec leur politique. Comme Bastin pour RFI a pu rencontrer le chef de l'opposition, Sajid Premadasa.
À 55 ans, Sajid Premadasa est le fils d'un ancien président assassiné en 1993 lors de la guerre civile. L'allure relaxe, il évite tout triomphalisme face à la situation.
Il faut reconfigurer notre économie autour des nouvelles technologies et de l'export. L'agriculture doit fleurir à nouveau, il faut mettre en place des aides qui ciblent les populations les plus vulnérables. Mais pour tout cela, nous avons des ressources limitées. Les discussions avec le FMI sont importantes pour regagner une crédibilité internationale.
Leader du parti d'opposition SJB, Sajid Premadasa dispose d'une assise au Parlement et du soutien du parti de la minorité tamoule. Mais quel que soit son nom, le nouveau dirigeant du Sri Lanka aura fort à faire pour restaurer la confiance du peuple envers ses politiques tout en sortant de l'abîme économique.
La majorité de la population a voté pour le parti des Rajapaksa qui les a trahis. Ils ont fait passer un amendement qui a considérablement renforcé le pouvoir présidentiel. Donc nous ne pouvons pas les décevoir. Il faut un changement de système, des résultats concrets et plus de démocratie.
Le Parlement devrait trouver un successeur au Premier ministre Ranil Wickremesinghe, devenu président par intérim rapidement. Mais sur la promenade maritime de Colombo, les manifestants affirment qu'ils ne lèveront le camp que lorsque le peuple aura voté pour un nouveau gouvernement et une nouvelle constitution.
En Ukraine, des missiles russes ont été tirés depuis la centrale de Zaporijia, dans le sud du pays. La situation est très tendue entre les militaires russes présents et le personnel ukrainien. Précision de Daniel Valo pour RFI.
Selon les autorités ukrainiennes, plusieurs centaines de soldats russes sont cantonnés en permanence sur le site de la centrale. À cela s'ajoutent des équipements lourds, des chars, des véhicules blindés et des camions chargés d'armement et d'explosifs. Plus grave encore, l'Ukraine accuse l'armée russe d'avoir déployé sur le site des lanceurs de missiles et d'avoir procédé à des tirs sur le territoire de Nikopol, à 80 km au sud-ouest de Zaporijia. Les autorités ukrainiennes se disent extrêmement inquiètes et elles accusent l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie l'énergie atomique, de ne rien faire pour pousser les Russes à évacuer la centrale. Selon Petro Kotin, le directeur de l'agence nucléaire ukrainienne, l'AIEA ne se montre pas assez ferme à l'égard de Moscou pour des raisons politiques et parce qu'un Russe siège auprès de son directeur général. Des accusations rejetées par l'AIEA qui insiste de son côté pour accéder à la centrale afin de pouvoir l'inspecter. Le gouvernement ukrainien refuse au motif que cela reviendrait à légitimer l'occupation du site par l'armée russe. À la situation très dangereuse au sein de cette centrale occupée vient donc s'ajouter des tensions diplomatiques de plus en plus fortes entre l'Ukraine et l'AIEA.
Le nouveau ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, a terminé sa visite diplomatique en Afrique. Reportage CJ Ansané pour RFI.
Accompagné du chef d'état-major français des armées, le ministre Sébastien Lecornu a entamé sa visite par un entretien avec Tene Biraima Ouattara, son homologue de la défense, l'occasion de passer en revue la coopération militaire entre les deux pays, qui a notamment donné naissance à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville, inaugurée l'an dernier. Le ministre ivoirien de la défense était d'ailleurs à Paris cette semaine pour assister à la conférence des donateurs afin de finaliser la deuxième phase de ce site destiné à former les soldats de la sous-région. Le ministre français des armées a ensuite rencontré le président Alassane Ouattara avant de terminer son séjour par la visite de l'historique base française de Port-Boué et son millier de soldats. Cette visite éclair s'inscrit dans la redéfinition de la stratégie militaire française dans le Sahel. Le président Emmanuel Macron souhaite désormais que ses troupes servent de soutien aux armées africaines qui devront conduire elles-mêmes les opérations de terrain. L'objectif est de changer la perception des populations dont une partie garde l'image d'une France conquérante sur le continent. Les états-majors ont jusqu'à l'automne pour réviser le dispositif militaire français en Afrique afin de répondre efficacement au péril djihadiste qui s'étend progressivement vers le golfe de Guinée.
En Grande-Bretagne, les 5 candidats restants pour devenir le prochain Premier ministre se réuniront ce soir lors d'un deuxième débat télévisé. Le premier débat étant centré sur des thèmes clés tels que l'honnêteté en politique et la politique économique. Au sens large, le débat de ce soir devrait se concentrer sur la fiscalité et les questions sociales plus larges, y compris les droits des transgenres. Les sondages d'opinion suggèrent également que les conservateurs accusent un retard considérable sur le parti travailliste d'opposition. Laure Calmus pour RFI revient sur le premier débat il y a quelques jours.
Qui sera le prochain Premier ministre britannique? Ils avaient hier 90 minutes pour convaincre. Les 5 candidats sont tous membres du Parti conservateur, tout comme Boris Johnson, mais n'étaient pourtant pas à l'aise lorsque le présentateur de Channel 4 a posé une question directe.
Oui ou non, Boris Johnson est-il honnête?
Des rires sont entendus dans le public. Pas toujours, a répondu Kemi Badenoch en baissant les yeux. Mais tous attendaient la réponse des deux favoris, Rishi Sunak, ancien ministre des Finances, qui a voulu se désolidariser du Premier ministre démissionnaire.
J'ai fait de mon mieux pour lui accorder le bénéfice du doute le plus longtemps possible, mais je ne pouvais plus, c'est pour ça que j'ai démissionné.
Penny Mordaunt, peu connue des Britanniques, mais qui, selon les sondages, battrait tous ses rivaux en cas de duel.
Il y a eu des problèmes graves et je pense qu'il en a payé le prix.
Les 5 candidats ont voulu se démarquer en exposant leur façon de gérer la crise du coût de la vie et l'inflation. Penny Mordaunt aimerait baisser les impôts, Rishi Sunak a fustigé des contes de fées, jugeant cette baisse irréaliste. Surprise de la soirée, Tom Tugendhat serait le vainqueur de ce débat. 36% des 1000 personnes interrogées auraient voté pour lui.
La chaleur en Europe de l'Ouest avec des températures qui dépassent les 40 degrés dans certains pays. La Grèce, la France, l'Espagne et le Portugal luttent contre plusieurs incendies en ce moment. Daniel Valo, RFI.
Ce sont des dizaines d'incendies qui sont toujours actifs en Espagne, du nord au sud du pays. En Andalousie, plus de 3000 personnes ont dû être évacuées, tandis que dans la région d'Estramadour, une autoroute reliant Madrid au Portugal a dû être fermée durant plus de 12 heures. Le Portugal est lui aussi touché par ces incendies qui ont provoqué 2 morts et une 60aine de blessés et détruit plus de 12 000 hectares de forêts et de broussailles. La situation reste très difficile également dans le sud-ouest de la France, particulièrement en Gironde, où près de 10 000 1000 hectares de forêt ont été détruits. Les feux ont entraîné depuis mardi l'évacuation de 12 000 personnes en France. Les incendies se poursuivent et l'inquiétude redouble car un nouveau pic de chaleur devrait être atteint dans les prochains jours. Les agences météo prévoient des températures de 40 degrés en France, 42 au Portugal et même 44 degrés en Espagne dans certaines régions. Le Royaume-Uni s'attend lui aussi à des records de chaleur en début de semaine prochaine. La température pourrait y dépasser les 40 degrés, un record historique. Une situation qui a poussé l'agence météo britannique à déclencher pour la première fois l'alerte rouge, mettant en garde contre un risque pour la vie.
Un mot de sport, tennis, Leighton Hewitt a été officiellement intronisé au temple de la International Tennis Hall of Fame. L'ancien numéro 1 mondial et capitaine de la Coupe Davis en Australie a reçu l'honneur mais n'a pas pu assister à la cérémonie en raison des restrictions de voyage Covid. Dans ses remarques après avoir reçu le prix, Leighton Hewitt a déclaré qu'il se donnait toujours à 100% chaque fois qu'il mettait le pied sur un court de tennis. Leighton Hewitt se dit reconnaissant pour la carrière qu'il a vécu.
I feel fortunate that I was able to play across different generations, that I was able to be on the same court as my heroes that I looked up to, like Andre Agassi and Pete Sampras, and then go on and compete against three of the greatest tennis players our sport has ever seen in Roger Federer, Rafael Nadal and Novak Djokovic.
On passe à la météo pour ce dimanche en Australie. À Perth, il fera 18 degrés, Adélaïde 14, Melbourne 15, Hobart 13, Canberra 11, Sydney 20, Brisbane 22, Cairns 26, Darwin 29 et à Alice Springs un maximal de 24 degrés. Un rappel des grands titres de ce 17 juillet, le gouvernement fédéral qualifie de ridicule la critique de l'opposition de son backflip de paiement de la prime Covid. L'Australien Leighton Hewitt est intronisé au temple de la International Hall of Fame. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench
Journal des sports de ce dimanche. Tout d'abord, le Tour de France, la 14e étape remportée par l'Australien Mike Matthews. On l'écoute sur SBS.
Keep believing to your teammates. What does it mean?
I think it's pretty much the story of my career. Had so many roller coasters up and down, but my wife, my daughter, they kept believing in me. And how many times I've been smashed down to all the time get back up. This was for my daughter today. She's 4 years old, and I really just wanted to show her that the time I'm away all the time is to show her what I do it for. And today was that day.
Today was that day, and that was that climb as well. Can you tell us how did you do? How did you manage?
I think after yesterday, I think it was a big opportunity missed. Yesterday was a really good stage for me. And this three-day block here from yesterday till tomorrow was what our team was aiming for in the second week, was to do something in this second week. And yesterday went so bad for myself. The team rode in the final to bring back the sprint for Dylan. We were a bit too late. But today, I just knew it was probably my last chance. I mean, into Lausanne was a good opportunity. I came up second. Into what was the other stage? When I was second to Tade, second best again. So, I mean, running out of chances in this Tour de France. And I think I just wanted to show everyone that I'm not just a sprinter. I can also ride like I rode today. And just thinking of my daughter on that final climb, the whole way up to the finish, my wife, how much sacrifice they make for me to make my dreams come true. And hopefully today I showed them the reason why we sacrifice so much.
Et analyse de cette 14e étape avec Martin Guèze, Thomas de Saint-Léger et Bertrand Éclair pour RFI.
Alors l'Australien Michael Matthews qui a remporté en solitaire cette 14e étape sur le Tour de France. C'est arrivé à Mende, sa 4e victoire sur la grande boucle, la première depuis 5 ans. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne l'avait pas vu arriver celle-là.
Oui, alors c'est vrai qu'il est polyvalent, Michael Matthews, excellent sprinter, à l'aise aussi dans les petites bosses, mais aujourd'hui sur un terrain très vallonné, il nous a fait un numéro en solitaire et en deux temps. Une première attaque à 50 km de l'arrivée pour faire l'écrémage dans le groupe d'échappée, anticiper aussi l'ascension finale. Et puis dans cette montée très dure vers Mende, une deuxième accélération pour distancer ceux qui s'étaient accrochés, éviter aussi les retours de l'arrière. Il avait du monde à ses trousses avec Bettiol, l'Italien, qui va même un moment revenir à sa hauteur, le dépasser avant de craquer et finalement d'abdiquer.
Et un autre qui était dans le coup, c'était le Français Thibaut Pinot.
Troisième sur la ligne, Pinot échoue pour quelques secondes, un peu comme à Châtel en fin de semaine dernière. Un résultat finalement à l'image de son Tour de France, frustrant. Alors qu'est-ce qui manque pour l'instant au grimpeur français? Sa réponse juste après l'arrivée.
Il faut un peu de réussite, un peu de chance et un peu de jambes, un peu de tout. C'est vrai que pour gagner sur le Tour, il faut avoir des bons éléments avec soi. Et c'était pas simple aujourd'hui, c'était assez tactique et pas grand-chose à regretter au final.
Thibaut Pinot qui va avoir encore d'autres occasions de briller dans les Pyrénées la semaine prochaine pour peut-être apporter à la France une première victoire dans cette édition 2022. Pour l'instant, c'est le zéro pointé pour les Bleus.
Oui, pas du joli joli pour les cancres du côté des premiers de la classe, du côté des leaders du général. Une confirmation, il y a deux coureurs au-dessus du lot.
Jonas Vingegaard, le maillot jaune depuis mercredi, et son meilleur ennemi, Tadej Pogacar. Pogacar qui a même eu l'audace d'attaquer en tout début d'étape sans succès. Il a remis ça dans la dernière côte, dans sa roue. Un seul coureur a pu suivre, Vingegaard, bien sûr. Les deux ont encore gagné des secondes par rapport à Geraint Thomas, à Romain Bardet, à David Gaudu et compagnie.
Voici maintenant la carte postale de cette 14e étape avec Alexis Bédu pour RFI.
Le vélo ici, il marque au fer rouge. Le Stéphanois Aurélien Bonnet travaille dans le secteur depuis ses plus jeunes années. Il est le directeur technique d'Easy Design Technology, fabricant de triporteurs à assistance électrique, un renouveau pour l'industrie du cycle.
Tout ce qu'on voit sur notre vélo, on va dire, a quasiment 85% d'effet, donc autour de Saint-Etienne. Moi, c'était un choix vraiment personnel de tout faire en local. On a la possibilité de trouver plein d'entreprises qui font de l'usinage, du décolletage, du traitement de surface. Et ça me permet, moi, vraiment de sécuriser mes approvisionnements, justement, par rapport, on va dire, au schéma classique asiatique.
C'est à Saint-Étienne qu'a été fabriquée la première bicyclette française au début du XXe siècle. L'industrie du cycle est en plein essor. Et pourtant, un événement sur le Tour de France 1904 va mettre Saint-Étienne sur la touche. Petit coup d'œil dans le rétroviseur avec Pascal Charouin, chercheur en histoire du sport.
5-6 échappés, dont Maurice Garin, et puis un certain Alfred Foire, cycliste stéphanois, s'échappe et au bas du col du Grand Bois à Saint-Étienne, les Stéphanois très chauvins sont au courant qu'il y a effectivement 6 échappés et commencent à caillasser les coureurs qui sont échappés avec Alfred Foire.
Conséquence, la ville sera bannie du Tour pendant 45 ans avant un retour en force en étant 24 fois ville-étape.
On passe au foot, l'Euro féminin avec dans le groupe B l'Allemagne qui a battu la Finlande 3-0. L'Espagne s'est imposée contre le Danemark 1-0. L'Angleterre est déjà qualifiée ainsi que l'Autriche, première et deuxième de leur groupe A. Foot toujours, la CAN féminine se poursuit au Maroc avec deux matchs de classement ce dimanche entre le Cameroun et le Botswana et le Sénégal jouera contre la Tunisie. Et puis les demi-finales demain avec le Maroc qui va rencontrer le Nigeria et la Zambie contre l'Afrique du Sud. Je rappelle que les demi-finalistes de cette CAN de 2022 seront qualifiés pour la Coupe du Monde de 2023. Et puis on passe au mercato chez les messieurs. Lewandowski signe avec le FC Barcelone. Explication de Simon Bourtembourg pour RFI.
Oui, un nouveau défi au Barça pour Robert Lewandowski, pas encore de signature officielle, mais les deux clubs s'accordent à dire que tout est bouclé. Le FC Barcelone en rend donc un finisseur hors pair. La saison dernière, l'attaquant polonais était tout simplement le meilleur buteur d'Europe, avec 50 réalisations. En fait, en Bavière, tout était un peu trop facile pour le numéro 9 de 33 ans, 8 années au Bayern Munich, 7 fois champion d'Allemagne et une fois vainqueur de la Ligue des Champions. Une armoire à trophées qui a de quoi faire saliver les supporters des Blaugrana qui attendent eux notamment une Ligue des Champions depuis 2015. Lewandowski au Barça, c'est donc un montant de transfert estimé à 45 millions d'euros. Le club bavarois laisse donc partir l'un de ses meilleurs joueurs, l'un des meilleurs joueurs de son histoire.
Et puis Chancel Mbemba signe avec Marseille. À nouveau, le reportage de Simon Bourtembourg pour RFI.
Chancel Mbemba est donc marseillais. Libre de tout contrat, l'international congolais a signé un bail de 3 saisons avec l'OM. Un recrutement gratuit donc, mais qui n'enlève rien aux qualités de l'ancien du FC Porto. Rapide, puissant et rude dans les duels, Chancel Mbemba était un élément clé de l'arrière-garde des Dragons. Il y occupait un poste de titulaire ces 3 dernières saisons, lors desquelles il a notamment réalisé 2 doublés Coupe Championnat en 2020 et 2022. Des trophées, l'expérience du succès donc, et une solide connaissance de la Ligue des Champions. Les 35 matchs de Chancel Mbemba en Coupe d'Europe ont certainement été un argument de poids pour l'OM qui s'apprête à retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine. Mbemba compte aussi une belle expérience internationale. Fort de 64 sélections avec la République démocratique du Congo et d'une 3e place à la CAN 2015, il devrait occuper une place de titulaire dans la défense de l'Olympique de Marseille. Défense largement remaniée puisque Chancel Mbemba sera en concurrence avec 2 autres nouveaux éléments en la personne de Samuel Gigot et Isaac Touré.
On passe au tennis, la finale de Bastad ce dimanche entre 2 Argentins. Cerundolo qui jouera contre Baez. Et puis à Lausanne, la finale des dames ce dimanche entre Martic, la Croate, et Danilovic, la Serbe. Et puis la finale des dames à Budapest ce dimanche entre Krunic, la Serbe, et Pera, l'Américaine d'origine croate. À Newport, ce sera une finale entre l'Américain Cressy et Bublik, le Kazakh. Le retour de Once Jabeur, la Tunisienne, chez elle, dans son pays natal, après sa finale à Wimbledon, malgré ne pas avoir gagné ce tournoi. On écoute le reportage de Ouma Emaneshi pour RFI.
C'est devant le Théâtre National qu'une foule de Tunisiens, drapeaux à la main, ont acclamé la joueuse de tennis. De retour au pays, Once Jabeur l'a remercié et encouragé ses fans.
Je veux vous dire de croire davantage en vous, car si vous vous mettez un objectif en tête, vous pouvez y arriver. Dans l'histoire, nous connaissons beaucoup de Tunisiens qui ont réussi et je voudrais vous remercier infiniment.
Parmi les amateurs, Mons se fait venu avec ses 2 filles pour qu'elles s'inspirent de la joueuse.
Elle a fait la fierté de la Tunisie et a aussi beaucoup fait pour le tourisme. C'est l'une des choses les plus importantes que pourrait réaliser une Tunisienne.
À ses côtés, Mounir dit avoir connu le père de la sportive. Il admire le parcours de cette femme qui n'est pas issue d'une famille privilégiée.
Les difficultés qu'a connues Once Jabeur, personne ne pourrait les supporter. Ils avaient des difficultés financières et Once Jabeur s'est battue et a été patiente.
Nous, l'étudiante, estime elle que la championne de tennis est une inspiration pour toutes les jeunes femmes.
Tout le monde l'apprécie, surtout les jeunes, et j'espère que nous suivrons ses pas pour avancer et réussir comme elle.
Once Jabeur est très appréciée en Tunisie pour ses exploits sportifs, mais aussi pour sa modestie et ses discours positifs.
On passe au rugby avec des test matchs d'été et la victoire surprenante à nouveau de l'Irlande contre la Nouvelle-Zélande, 32-22. L'Australie s'est inclinée face aux Anglais, 21-17. Et victoire de l'Afrique du Sud contre le Pays de Galles, 30-14. Voilà pour le journal des sports de ce dimanche. Vous écoutez Radio SBS, le programme en français. Trésor et bientôt 35 minutes sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français et dans quelques secondes, on passe au personnage de la semaine en compagnie de Léo Roussel et de Marianne Murat.
SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement. Sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio.
Nous revenons à présent, comme chaque dimanche, sur un événement marquant de l'actualité et une personnalité qui lui est associée. Pour nous en parler aujourd'hui, nous sommes avec Léo Roussel. Bonjour Léo.
Bonjour à tous.
Aujourd'hui, vous allez nous parler de réseaux sociaux et plus particulièrement d'une personnalité qui cartonne sur TikTok.
Oui, on va aujourd'hui s'intéresser à celui qui est devenu, il y a quelques semaines maintenant, la star de TikTok, le Sénégalais Kaby Lamé. L'humoriste et influenceur est devenu la personne qui compte désormais le plus d'abonnés sur le réseau social chinois. Vous l'avez sans doute déjà vu se moquer de personnes censées présenter des astuces en vidéo et qui se rendent en réalité la tâche plus difficile. Kaby Lamé, c'est un compte de vidéo humoristique qui est aujourd'hui connu dans le monde entier et reconnu par un certain nombre de célébrités, de stars, et je vous propose d'en apprendre un peu plus sur le TikToker qui compte aujourd'hui 146,7 millions d'abonnés.
Dites-nous-en un petit peu plus, hein, qui est Kaby Lamé ?
Alors, Kaby Lamé, avant de devenir la star de TikTok qu'il est aujourd'hui dans le monde entier, il a eu une vie bien différente. Il est né au Sénégal, il est arrivé avec ses parents en Italie à l'âge de 1 an et il va grandir à Chivasso, une petite ville du nord-est de Turin. Il vit dans un logement social avec ses parents et rien ne le prédestinait vraiment à devenir une star des réseaux sociaux. Outre ses passions pour le sport, notamment le football et le basket, Kaby Lamé enchaîne les petits boulots depuis l'âge de 17 ans. Il est maçon, serveur, assistant en cuisine, nettoyeur de vitres. Et en mars 2020, il est ouvrier dans une usine. On est alors au début de la pandémie de Covid-19 et il est licencié. Alors comme beaucoup d'autres, Kaby Lamé se retrouve chez lui en pleine période de restrictions de déplacement et il va chercher un moyen de tuer l'ennui, de passer le temps. Et ce sera pour lui le réseau social de vidéo TikTok.
Qu'est-ce qui va déclencher son succès ?
Alors ses vidéos sont simples, Kaby Lamé, on l'a dit, il aime ironiser sur les personnes qui souhaitent livrer des astuces sur TikTok. Sur ses vidéos, il ne parle pas, c'est sa gestuelle qui fait son succès, une attitude pleine d'étonnement et surtout désabusée face à l'absurdité des inconnus présentant leurs fausses astuces. Et ses mimiques, elles ont fait un carton, elles sont reprises progressivement partout et ses vidéos sont visionnées à des millions de reprises, 275 millions notamment pour une vidéo où il se moque d'un tutoriel pour éplucher une banane avec un couteau. Alors ce modèle de vidéo, Kaby Lamé en a fait sa marque de fabrique et son succès. Il fait un tabac pendant les confinements successifs liés à la pandémie et ses nombreux partenariats avec des marques lui permettent progressivement de gagner sa vie et de gagner en notoriété.
Et comment va-t-il devenir le TikToker le plus suivi au monde ?
Tout va se faire progressivement mais en un temps tout de même record pour le jeune influenceur âgé aujourd'hui de 22 ans. Un an seulement après s'être lancé sur TikTok, en 2021, Kaby Lamé devient la personnalité la plus suivie du réseau en Italie. Il pose pour des magazines, on parle du phénomène un peu partout à la télévision. Son quotidien va donc changer, il s'installe du côté de Milan, où sa carrière est aujourd'hui gérée par une agence de talent, et il va progressivement s'afficher à côté des célébrités dans le monde. Des pilotes de Formule 1, des footballeurs, le sport qui reste une des passions de Kaby Lamé est souvent présent dans ses vidéos. Cette exposition exposition mondiale auprès de célébrités contribue à faire grimper encore un peu plus sa notoriété, au point de devenir, à la fin du mois de juin dernier, la star la plus suivie de TikTok à 22 ans, dépassant ainsi Charlie D'Amelio, l'américaine de 18 ans, également immense célébrité de TikTok.
Léo, dites-nous, comment vit Kaby Lamé aujourd'hui avec cette nouvelle notoriété ?
Alors, Kaby Lamé est aujourd'hui une personnalité célèbre dans le monde entier. Il continue à faire des vidéos sur TikTok, évidemment, où il n'hésite pas à s'engager un peu plus dans ses vidéos. On l'a vu notamment prendre position contre le racisme ou plus récemment en faveur de l'écologie ou encore de la paix dans le monde. Des prises de position qui restent assez rares quand même pour le TikToker qui avoue volontiers que cette nouvelle notoriété lui permet aussi de rêver un peu plus grand. L'influenceur sénégalais, invité au Festival de Cannes au mois de mai dernier pour faire partie du jury du TikTok Short Film, avait déclaré « Je dois vous avouer que mon rêve ultime serait d'être un jour consacré à Hollywood par un Oscar » après avoir reçu la Palme d'Or au festival. Alors peut-être qu'un jour, on pourra espérer voir Kaby Lamé ailleurs que sur nos écrans de téléphone et pourquoi pas sur grand écran dans une salle de cinéma.
Merci Léo d'être venu sur l'histoire de Kaby Lamé, le TikToker le plus suivi de la planète.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
h 43 sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français et dans quelques instants, on revient sur le Bastille Day Festival de Federation Square à Melbourne qui d'ailleurs continue ce dimanche et vous avez encore quelques heures si vous voulez venir en ville et assister à ce festival.
Vous êtes venu à Bastille Day aujourd'hui ?
Pour voir un petit peu de la France à Melbourne.
Et alors ça fait du bien de voir autant de Français ?
Ça fait plaisir, surtout de voir des bons produits, de bien manger.
Vous avez mangé quoi ?
De la raclette.
C'était bon ?
Délicieux, et des crêpes.
Et les enfants, ils ont aimé ?
Au caramel et la banane.
Et est-ce que t'as aimé ?
Ouais.
Toi aussi t'as mangé une crêpe ? Elle était à quoi ta crêpe ?
Chocolat.
Why did you come to Bastille Day today?
I really like the idea of French culture. I studied it at school for a long time and I thought it's nice to be immersed in the culture for the day. There's lots of French people here today and French food and it's a great day for a crepe as well.
And what about French people? Is it true that we're very mean?
I don't think so, not from my experience.
Have you ever been to France?
I have not been to France. I plan to one day, yes I do. I'm saving up.
Yeah. Have you eaten something today?
No, I'm waiting for a crepe at the moment, so I'm looking forward to that very much. Yeah.
What are the toppings you're going to put on your crepe?
I got a cinnamon sugar.
All right, yeah. Good call. Thank you.
I need some French culture.
French culture means French food?
French food, French speaking, language, and all the fun stuff that comes with it.
Do you speak French a little bit?
Un petit peu.
What about French people?
Oh, lovely. I spent some time when I was very young in Paris. I did some study, stayed there for 7 months, and I loved it. And all those memories just come back when I meet French people, and it's just lovely.
Have a lovely day.
Thank you so much.
Bye.
Okay, bye-bye.
Where did you come to Bastille Day today?
Because when I was little, we used to go to France, and I can't really remember much of it. But when I get older, I really want to go back, so I thought this would be a really great experience too. See all of the French culture and stuff. I thought it would be really great and I'm having an amazing time.
Have you eaten some stuff?
Yeah, I just had a creme brulee. That was the first time I've ever had one. It was really great, yeah.
So here is France in Melbourne. Next step is France in France?
Yes, absolutely. That's the goal. I'm trying to push them to let me go, but it's been difficult with COVID. So next year.
Hopefully. Thank you very much.
Of
Have a
course.
Good day.
Have a good day too.
You too. How do you enjoy your raclette?
Oh, I like it super cheesy.
Why did you come today at the Bastille Day?
So we were just looking around the art galleries and we saw this like crowd of people. So we decided to come in and explore and then I got raclette.
And what does it tell you about the French culture? Does it look cool?
Oh, I love French food. I love cheese. I love escargot. I love fondue.
Yeah.
Wow. I also like crème brûlée. See, I know a lot about French culture.
Yeah.
Food.
Have a good day.
Thank you so much.
Au Bastidé, on a vu qu'il y avait de la nourriture, de la boisson, des livres, des ateliers, mais il y a aussi des cosmétiques. Nous sommes avec Émilie, la cofondatrice de French Beauty Co. Émilie, bonjour.
Bonjour.
Parlez-nous un petit peu de votre stand.
Donc nous, en fait, on est une petite boutique en ligne. On vend 30 marques, enfin une trentaine de marques de marques de pharmacie française. Donc on a tout, on a du skincare, du haircare, des parfums, on a des produits pour les enfants, pour les hommes. Et en fait, c'est un petit peu la destination française en ligne sans aller en France. Donc pour tous ceux qui aiment les marques françaises, bah vous pouvez tout trouver maintenant ici à Melbourne.
Et là, on voit qu'il y a du monde devant votre stand. Comment est accueillie la cosmétique française ici en Australie ?
Alors vraiment très très bien, les gens sont vraiment en demande de produits français. Surtout après le Covid, on est vraiment dans cette recherche de produits naturels, de less is more, qui plaît beaucoup. Et on est, ouais, vraiment, les gens aiment beaucoup les produits français.
Il y a peut-être aussi, exactement comme vous dites, ce fantasme de la classe à la française.
Oui, le côté vraiment natural chic, comme ils disent ici. Donc ouais, vraiment, les gens aiment beaucoup. Et puis on a aussi des produits pour peau très sensible, etc., qu'on trouve peu en fait ici en Australie.
Comment vous est venue l'idée de cofonder French Beauty Co?
On avait vraiment une demande en fait des Australiens et des Français de ces produits de pharmacie française. C'est vraiment le concept de pharmacie française, on n'a pas ça ici en Australie. Et puis on avait un problème aussi avec nos stockistes, nos pharmacies ici, un problème de place où on ne pouvait pas avoir tous les produits qu'on voulait. Donc on s'est dit bah, pourquoi pas le faire en ligne, et comme ça on peut avoir tout en fait sous un site.
Donc vous avez fondé l'entreprise une fois que vous êtes arrivée en Australie ?
Oui, tout à fait. On a commencé en fait avec quelques marques, on travaillait avec les pharmacies, et petit à petit on s'est dit mais en fait il nous faut plus de marques, plus de choses, et puis aussi des petites marques françaises qui auraient été peut-être pas trouvé leur place ici dans les points de vente, mais des produits que les gens recherchaient, des produits comme homéoplasmine pour les peaux irritées, biafine pour les coups de soleil, vraiment les produits français que les gens connaissent et qui aiment.
Merci beaucoup Émilie.
Je vous en prie.
Toujours au Bastidé, et cette fois nous sommes avec Ambre, brand ambassador Melbourne de M. Chapoutier. Ambre, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que c'est M. Chapoutier ?
Alors M. Chapoutier, c'est une winery, en fait, une estate qui date de 1808, qui est vraiment d'origine à la vallée du Rhône et précisément Hermitage, donc l'appellation à Tain-l'Hermitage, la petite ville. Donc on est vraiment à côté du Rhône, entre Saint-Joseph et l'appellation Hermitage.
Et qu'est-ce que vous faites ici en Australie ?
Alors, je suis toute récente. Je suis arrivée il y a une semaine en Australie. Donc, c'est vraiment...
Bienvenue.
Merci beaucoup. C'est vraiment hyper récent. Je viens là justement pour être brand ambassador, pour représenter du coup cette belle maison familiale de la vallée du Rhône en Australie et précisément à Melbourne.
Et ici, à Bastidé, aujourd'hui, vous organisiez une masterclass.
Exactement. On faisait une masterclass en collaboration justement avec Long Paddock Cheese. On a vraiment la même philosophie qui est vraiment de justement appréhender le terroir, comme on dit, australien, avec la petite Frenchy touch qu'on apporte justement ici en Australie.
Donc on le dit pour nos auditeurs, à Long Paddock Cheese, c'est l'entreprise qui fait du fromage en Australie, mais du fromage 100% français.
Exactement.
Et notre collègue Thomas Mercier a réalisé une interview avec Gaëtan la semaine dernière, donc une interview à retrouver sur notre site internet sbs.com.au/french. Ambre, c'est comment l'ambiance aujourd'hui au Bastille Day ?
Eh bien vraiment, une très belle découverte. Je ne m'y attendais pas. En plus, pour mes premières à Melbourne, c'est super chouette d'avoir ce côté un peu français qui me manque aussi hein, quand même. Le fromage français, évidemment, le bon vin et une super ambiance, hyper conviviale. Je ne pouvais pas rêver mieux là.
Bon, bah, bienvenue en Australie, Ambre.
Merci beaucoup.
Et bonne continuation.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
On est avec Chris de l'entreprise Canel. Chris, bonjour. Vous avez un stand aujourd'hui au Bastidé. Il y a la queue. C'est comment l'ambiance depuis ce matin ?
Bah, c'est une ambiance phénoménale. Franchement, super. Il y a beaucoup de personnes ont répondu à notre annonce sur Instagram et Facebook. Et franchement, on ne s'attendait pas à avoir une queue à notre stand. Donc, super content.
Il y a beaucoup de Français, mais pas que. On voit aussi pas mal d'Australiens ici au Bastidé. Comment réagissent les Australiens face à la nourriture caribéenne ? Oh,
extraordinairement bien. Ça fait plus de 3 ans qu'on opère en Australie, à Melbourne. Et franchement, les réponses sont super bien. Et les gens répondent bien parce qu'on est... ce que nous faisons de la cuisine fusion Cab et France. Donc les gens répondent super bien et nous avons plein de petites spécialités.
Parce que les Australiens, ils ne sont pas habitués à la nourriture caribéenne ?
Pas du tout. Ils sont vraiment habitués. Les seuls clients que j'entends parler de la cuisine caribéenne, c'est de la cuisine jamaïcaine, de Cuba et Puerto Rico, parce qu'ils y sont allés en vacances, mais ils ne connaissent pas la cuisine française déjà à la base et la cuisine française et caribéenne. Donc on est un peu unique en Australie.
Vous avez des spécialités ?
Oui, on a pas mal de spécialités. On fait des Caribbean Chicken Quiche, des pailles. Mon frère est le pâtissier, donc il s'occupe des flans coco, flans caribéens coco. On fait un peu des tartes coco, des choses un peu revisitées. Et nous avons aussi des chicken lollipop. Donc ça, c'est notre best-seller à Melbourne. C'est avec une sweet chili sauce. On a nos acras qui sont vegan avec une mango chili chutney. Et nous avons plein d'autres choses, en fait.
Vous avez parlé de votre frère, c'est une entreprise familiale.
Exactement. Donc, nous avons mon frère jumeau qui est pâtissier. Je suis cuisinier et notre mère était cuisinière. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on a cette flamme de la cuisine et de la restauration.
Vous êtes tous venus ensemble en Australie il y a 10 ans ?
Non, je suis arrivé en premier. Mon frère était au Japon. Donc, il a fait il était chef de cuisine chocolatier et il est venu ici parce que je lui ai parlé que des opportunités ici. Il m'a rejoint.
Et finalement, Chris, où est-ce qu'on peut trouver votre boutique ?
Donc, suivez-nous sur Instagram. On est super actifs, les gars. On poste tout sur Instagram, nos markets. On fait beaucoup de markets. En fait, c'est tout ce qu'on fait. On fait des markets et quelques festivals. Et les gars, suivez-nous sur Facebook ou Instagram. Et envoyez-nous un petit message de support et super.
Merci Chris.
Merci beaucoup. Au revoir.
Je suis avec Sabine Degé qui a fait partie du comité organisateur du Bastidé pendant 5 ans. Sabine, bonjour.
Bonjour Marianne.
Vous ne faites plus partie du comité qui organise le Bastidé, mais cette année vous êtes venue en tant que bénévole. Pourquoi avoir voulu revenir alors que vous ne travaillez plus pour le Bastidé ?
Alors, je ne travaille plus pour le Bastidé, mais j'adore l'ambiance du festival. Et puis, quand on peut aider, je lève la main, comme on dirait en bon français anglais. Et cette année, je suis venue pour la première fois, on est en famille. J'ai mon mari et ma fille qui sont également bénévoles aujourd'hui.
Et qu'est-ce que vous faites concrètement aujourd'hui ?
Alors, aujourd'hui, mon mari et moi, nous sommes au bar. Nous servons les clients avec tout un assortiment de vins français. Et ma fille est hôtesse d'accueil, donc elle répond aux questions, elle dirige les visiteurs.
Et quels sont les types de produits ? Vous venez de parler de vin français, quels sont les types de produits qu'on propose aux consommateurs aujourd'hui au Bastille Day ?
Alors au Bastille Day, vous avez bien sûr donc, ce que nous vendons au bar, mais vous avez un très grand nombre de stands qui vendent toutes sortes de produits. Il y a du fromage, il y a de la raclette, des crêpes, il y a des vêtements... peut-être aussi, je ne suis pas passée encore, je n'ai pas eu le temps de les explorer tous, peut-être des bijoux, je sais qu'il y en avait les années précédentes. Voilà, donc une grande panoplie de produits français.
Vous n'avez pas eu le temps parce qu'on se doute, en bon français, il y a du monde qui défile au bar depuis ce matin.
Oui, nous y sommes depuis 9h du matin, il a ouvert à 10h et ça a été non-stop. Il est 3h, peut-être que je vais pouvoir prendre mon lunch. Je suis surprise positivement par le nombre de visiteurs. Là, ça commence à être vraiment une bonne ambiance de festival à partir de 2-3 heures cet après-midi. Vraiment très plaisant.
Et on l'a dit, Sabine, si vous ne faites plus partie du comité organisateur aujourd'hui, c'est parce que vous avez lancé votre propre entreprise qui vous prend beaucoup de temps, n'est-ce pas ?
Exactement. Donc, j'ai lancé une boutique en ligne qui vend des livres d'occasion pour leur redonner une seconde vie, en fait, en Australie, des livres en français et en anglais pour les enfants et les adultes. Et ça s'appelle babelbooks.com.au.
Donc on trouve vos livres sur Internet. Et comment ça se passe concrètement ?
Concrètement, vous passez votre commande comme vous la passeriez auprès d'Amazon. Et puis vous les recevez chez vous Alors si c'est sur Melbourne, c'est à peu près 48 heures. Sydney, ça va être entre 2 et 4 jours ouvrés. Et puis quand on est dans le regional ou dans le WA, donc là, ça prend un petit peu plus de temps. Ça peut prendre jusqu'à 2 à 3 semaines.
Donc c'est des livres d'occasion ?
Oui.
Les gens vous contactent pour faire des donations ?
Exactement. Les gens, généreusement, en fait, donnent leurs livres, sachant que non seulement on leur redonne une seconde vie, mais que Babel Books reverse 10% des ventes à un éditeur qui est dans le WA, un éditeur aborigène qui imprime des livres en langue aborigène pour maintenir leur culture.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Et voilà, avec Edith Piaf, L'Avion Rose, je vous dis à très bientôt sur les ondes de Radio SBS, un mardi prochain à partir de 13h. Belle journée et à très bientôt.
Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, sans mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.